les deux enseignants, documentaliste et enseignant au collège Rennery. Aussi, on annonce la couleur, on est membre de Sud Éducation 31. Je suis, moi personnellement, je continue à participer à l'Assemblée des parents enseignants habitants sur la Rennery, qui est un collectif qui continue à fonctionner, hein, qui continue à lutter sur la Rennery, sur ces thèmes dont on va parler là. Je commence par quelques étapes, un peu le contexte de ce qui s'est passé, pourquoi cette lutte et comment elle s'est déroulée, et puis surtout quels différents collectifs se sont agrégés à cette lutte depuis au moins une dizaine d'années. Je voulais tout à fait, avant de commencer, dire qu'on se reconnaît tout à fait dans ce titre de la bataille des collèges, du collège. C'est une expression dans laquelle se reconnaissent beaucoup, en particulier les membres du collectif Habitants, Parents, Enseignants. Et ils sont assez fiers de dire qu'ils ont participé à cette bataille, qu'ils considèrent comme une bataille. Juste pour préciser que moi, personnellement, Domi aussi, je pense qu'on va essentiellement parler du collège Rennery, puisqu'on y était. Bellefontaine, il y a des spécificités. On pourra en parler aussi également, comment ça s'est passé, cette fermeture de ce collège. Donc un petit retour en arrière avec les différentes étapes qui ont constitué cette lutte. Je suis obligé de revenir à un peu ce qui a été évoqué. La spécificité quand même de ce nouveau quartier du Mirail, qui est un projet qu'on pourrait qualifier d'utopique, d'une utopie architecturale, sociale, d'un architecte qui s'appelle Candilis. Il y avait aussi Josie Woods, enfin bon, ils étaient un certain nombre, à imaginer ce quartier qui n'était pas un quartier dans les années 60, qui n'était pas un quartier voulu à l'extérieur, en terrain complètement à l'extérieur du centre-ville, mais qui était proche du centre-ville, qui était avec des immeubles, j'y reviendrai, qui était avec des immeubles proposant des appartements remarquables en termes d'espace, en termes d'exposition, en termes de plein de choses, avec une pensée en termes de flux pour les piétons, pour les voitures, etc. Enfin, c'était un projet qu'à l'époque, Candilis aimait beaucoup dire, qualifié d'utopie architecturale. Ça, c'était dans le cadre de la construction d'une zone urbaine à urbaniser en priorité. Hein. Ça correspondait aux années 60 où il fallait loger des gens qui arrivaient sur Toulouse. Et en particulier, à l'époque, ce quartier attirait énormément les classes moyennes. Il y avait énormément de classes moyennes qui ont investi ce quartier, qui ont même acheté des appartements dans ce quartier. En 70, le collège Rennery est construit au milieu du quartier. Bellefontaine suivra en parallèle, pour les enfants des familles du quartier. Et puis, c'est à partir des années 80 que le quartier se paupérise, pour réfléchir à pourquoi. Enfin bref, c'est comme ça que ça s'est passé, progressivement. Et en fait, les appellations qui sont collées au collège suivent cette paupérisation de façon assez impressionnante. Au départ, on parle d'une zone d'éducation prioritaire qui était aussi quelque part, ça peut être sujet à discussion, mais qu'on peut qualifier de projet utopique dans le genre, dans l'idée où il faut dire, où l'idée c'était de donner plus à ceux qui ont moins, en termes de moyens, en termes de possibilités pédagogiques, en termes de partenariat, etc., dans le cadre du service public d'éducation. Ça s'appelait une zone d'éducation prioritaire, pour ceux qui s'en souviennent, c'était les ZEP. Ça s'adressait surtout à des publics, au public, au départ, l'idée des ZEP, c'était faciliter les apprentissages des enfants issus de familles qui étaient eux-mêmes allophones ou bien qui étaient filles ou fils de populations immigrées qui arrivaient progressivement sur la ville. Après cette appellation ZEP, Il y a toute une cascade jusqu'à aujourd'hui d'appellations différentes qui correspondent à une paupérisation du quartier. Alors le collège est appelé Réseau Ambition Réussite. Je vous laisse imaginer ce que ça recouvre. C'est devenu ensuite un collège pour l'ambition, l'innovation et la réussite. Et puis ça s'est terminé dernièrement, jusque maintenant, en réseau d'éducation prioritaire. Et puis en réseau d'éducation prioritaire plus, qui correspond en fait progressivement à un glissement de changement de... Cette appellation correspond de plus en plus à des collèges qui ont des populations issues de catégories socio-professionnelles défavorisées. On est plus, ça, il y a eu un glissement vers cet aspect-là pour caractériser ces établissements. Toujours avec des moyens renforcés, bon, pour essayer de faire progresser les enfants en apprentissage. En 93, le métro arrive à la Rainerie. Ça, c'est un bouleversement, parce que ça rapproche ce quartier qui représente quand même entre 10 et 15 000 habitants du centre-ville, à quelques minutes. En 2001, une grosse catastrophe, c'est quand même AZF. Tu l'as rappelé, il y a la chimie. Le quartier est très impacté. Le collège, qui devra fermer pendant un an, parce que c'est arrivé en pleine journée. Tout le collège était rempli d'enfants, de personnel, etc. En 98-2005 aussi, quand même, le quartier, et là, le collège était directement, puisqu'il donne sur l'avenue de Kiev, la rue de Kiev, pour ceux qui connaissent, qui est une des entrées sur le quartier vers la place Sabal, qui est un des cœurs du quartier Rainerie, quand même. Et donc en 98 et en 2005, c'est le théâtre de révoltes très violentes face à la police qui ont été qualifiées d'émeutes. En 2005, se met en place, ça c'est une date importante, se met en place le grand projet de ville concernant la rénovation urbaine du Mirail. En 2012, il y a peut-être une liaison, je ne sais pas, le collège Rainerie devient le collège Badiou. Un des arguments pour lesquels le conseil départemental a été d'accord avec, a proposé changement de nom, c'était déconnecter le collège du quartier avec une appellation, avec un nom différent. En 2013, commencent les premières démolitions d'immeubles, les tripodes là, qui commencent à être démolis les uns après les autres, avec dispersion des populations progressives, comme tu l'as dit, vers les communes limitrophes, ou relogées sur des nouveaux immeubles qui étaient créés pas très loin des immeubles démolis, mais en nombre qui offraient un nombre d'appartements restreint par rapport à ce qui était démoli. En 2015 et 2016, alors là, c'est ce qui nous impacte directement sur le collège, le conseil départemental 31 lance un projet de renforcement de la mixité sociale qui concerne les deux collèges du Mirail et les habitants, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qui y a derrière ce truc-là ? Il y a le conseil départemental 31, détenu par le PS à l'époque, encore maintenant. Et puis une structure qui s'appelle le Conseil départemental de l'éducation nationale qui regroupe les collectivités, le conseil départemental. Les collectivités, ça va d'un préfet à les représentants de la mairie, du conseil départemental, etc. Les personnels de l'éducation nationale, avec les syndicats dits représentatifs, dont celui d'éducation n'était pas à l'époque. Et puis des usagers, alors là, des parents d'élèves, des grosses fédérations, comme par exemple la FCPE, mais aussi des associations moins connues, mais très actives, en particulier sur Bellefontaine, comme par exemple, je la cite, l'École et nous. Pourquoi je cite tous ces noms ? Parce qu'ils ont été tout de suite partie prenante du projet du conseil départemental. Ce qui veut dire qu'il restait très peu d'appui au niveau institutionnel, parmi tout ce que j'ai cité, qui pouvait au moins imaginer s'opposer à la mise en œuvre de ce projet. Un des autres acteurs qui a vraiment permis la mise en place de cette mixité sociale, de ce projet de mixité sociale, c'est un truc qui a été construit, qui a été imaginé à l'époque, peu de temps avant, qui s'appelle le CNESCO. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Conseil national d'évaluation. Le mot évaluation est important. Du système scolaire. Et là, en fait, je résume pour aller vite. Il regroupe un paquet d'experts qui réfléchissent et qui promeuvent l'idée d'une mixité sociale. C'est-à-dire... Enfin, bon, j'en parlerai un petit peu après quand je décrirai le projet tout de suite. Donc, eux, ils ont fait un sacré boulot à travers... ils ont mis le paquet, ils avaient énormément de moyens en termes de conférences nationales, internationales, partage des expériences dans différents pays. Bon, je ne sais plus trop quoi dire à propos d'eux, tellement ils étaient déconcertants. Enfin, ce qui a détruit vraiment à chaque fois les habitants du quartier ou les gens qui ont participé aux réunions organisées par la CNESCO, c'est les PowerPoint. Voilà, dans les habitants et chez nous, ce qui reste, c'est les PowerPoint avec des fromages, des tas de machins, des tas de statistiques, etc., pour justifier la mise en place de la mixité sociale. Et puis en parallèle, évidemment, le Conseil départemental 31 organise au pas de course, entre la rentrée 2016 et début 2017, le dialogue citoyen inévitable, qui était une véritable machine de guerre pour essayer pour convaincre les habitants des bienfaits de la mixité sociale. Alors, en quoi ça consiste, ce projet ? Trois choses, juste se le fixer dans la tête, des choses voilà, qui ont tout de suite soulevé les habitants et les personnels des deux collèges. Alors, très clairement, c'était la fermeture très rapidement envisagée des deux collèges des Mirail, quand même, un quartier de 10 à 15 000 habitants. On supprime les deux collèges, avec justification que ce sont des collèges qui sont devenus des collèges ghettos, impossibles à faire évoluer en termes de qualité des apprentissages. En gros, je résume. C'est ça l'idée. On les ferme. Ensuite, les enfants, qu'est-ce qu'on en fait ? Progressivement, on organise un buzzing. Un buzzing, c'est... On prend les enfants le matin, ils viennent les chercher place à Balle, par exemple, et ils les emmènent dans des collèges d'accueil. Il y a 6 collèges d'accueil, 10 favorisés, qui sont sélectionnés par le conseil départemental. Ça va de Fermat, Balma, Tournefeuille, etc., voilà, dans des quartiers dits favorisés. On emmène les gamins et les gamines vers ces établissements et ils reviennent le soir. Voilà, c'est ça l'idée, avec l'idée de dire que le fait de mettre des enfants au milieu de classes d'enfants issus de milieux plus favorisés, ça favoriserait les apprentissages, mais aussi en sourdine l'idée qu'ils apprendront les codes qui sont attendus de la part d'élèves tels que le conseil départemental les imagine. Et puis, troisième point, est prévue la construction de 2 nouveaux collèges, pas dans le Mirail, à proximité du Mirail. C'est à Saint-Simon et à Guillermy. Et très vite, on s'apercevra que les enfants du Mirail n'ont pas accès à ces deux collèges. C'est réservé aux enfants de Saint-Simon et plutôt de la Ramée, etc. Il y a très peu d'enfants, on pourra en parler après, qui ont accès à ces deux collèges, même actuellement. Les fermetures de collèges sont actées en 2020 pour le collège, puisque ça se fermait niveau par niveau, 6e, l'année d'après 5e, etc. Pour la fermeture du collège de Rennery se termine en 2020, en plein Covid, et en 2022 pour Bellefontaine. Alors, très rapidement, sur les luttes, les personnels des deux collèges et les parents, surtout regroupés dans l'Assemblée des parents enseignants habitants, sont opposés directement à ce projet, avec l'idée très simple, je résume, un quartier, un collège. C'était l'idée de l'importance du collège de proximité pour un quartier. C'était un lieu de... Enfin, bon, pour en parler, ils avaient des tas d'arguments très, très justifiés, à mon sens. L'idée d'un collège de proximité, c'était ça la défense. Et la deuxième chose, c'était là aussi la défense de l'éducation prioritaire. Deuxième aspect. Et là, les personnels de l'éducation nationale, on est vraiment très vite partis là-dessus. Alors, tout de suite, il y a eu des tas de rencontres avec les élus, les institutionnels, le conseil départemental, l'éducation nationale, la participation au fameux dialogue citoyen, où petit à petit s'est construit un discours, des interventions et une meilleure connaissance entre qu'on avait déjà quand on est travailleur dans un établissement REP plus, les contacts avec les familles deviennent tout de suite très, 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 très fortes. Mais là, ça s'est accentué dans le domaine de l'argumentation, de la mise en perspective de ce que chacun défendait. Et ce qui était formidable dans toutes ces interventions qu'on a menées auprès des institutionnels, c'était cette dualité entre habitants et travailleurs de l'éducation nationale. Il y a eu plein de choses, ça s'est décliné, la lutte s'est déclinée sous plein de formes, pas toujours triste, hein. Je l'avais pas mis, mais je l'ai repensé après, c'était souvent très festif, avec des repas, de la musique, etc. Alors, par quoi ça s'est traduit très rapidement, pour vous donner une idée des formes de la lutte quand même, une pétition en ligne, dont je vous invite, qui est toujours en ligne, je vous invite à lire les commentaires, parce que là, il y a beaucoup de jeunes, de familles, etc., du Mirail, qui ont mis leurs commentaires sur le pourquoi de l'intérêt pour eux d'un établissement de proximité. Des manifestations sur le quartier. C'est souvent sur le quartier un des axes. C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que les membres de l'Assemblée ne sont pas forcément là aujourd'hui. Un des axes de lutte, c'est encore maintenant de dire la lutte, elle se passe sur le quartier. Et donc, des manifestations sur le quartier, mais quand on était obligé, on partait au conseil départemental, au rectorat, que ce soit avec le soutien syndical ou sans le soutien... Mais surtout, il y a toujours eu, en tout cas, Sud Éduc 31. De 2018 à 2019, sur le quartier, avec les habitants, les associations, les travailleurs du quartier, tout ça, se sont tenus les états généraux de la jeunesse, déclinés en un tas de réunions, un tas de recherches, etc. Chacun intervenait. Ça a donné un livre blanc sur la jeunesse. L'idée, qui est encore disponible, hein, l'idée, c'était de s'opposer au discours de haine qui était propagé par les médias et par les institutionnels sur cette jeunesse du quartier du Mirail. Un des autres aspects, il y a eu d'autres aspects plus qui étaient où on a appris beaucoup de choses. C'est par exemple les porte-à-porte entre habitants et enseignants, où on allait dans les immeubles et on discutait avec les familles sur ce qu'ils pensaient de cette mixité sociale, ce qui permettait de construire aussi un argumentaire. Il y a eu des occupations, on a été jusqu'à des occupations du collège, voilà, et un paquet de soutiens qui ont soutenu cette lutte peu à peu. Malheureusement, le conseil départemental est arrivé à ses fins avec la fermeture des deux collèges. Mais la lutte continue, en particulier au niveau de l'Assemblée et aussi de Sud-Éducation. Sud-Éducation, en tout cas, entreprend un travail systématique de contestation des bilans qui sont faits par le conseil départemental sur cette mixité sociale qui est mise en œuvre. En contestant les chiffres, systématiquement, le conseil départemental a produit, pas systématiquement, mais deux années de suite, des bilans qu'il qualifie d'encourageants sur ce qui se passe pour les élèves en termes d'apprentissage, en termes d'amélioration de l'attitude des élèves, etc. Et systématiquement, en Sud Éducation, les contestes, ces bilans sont particulièrement mensongers, en particulier en ce qui concerne les chiffres, et à tel point qu'on a réussi à faire abandonner par les promoteurs de la mixité sociale l'idée que les apprentissages, que la mixité sociale... était favorable aux apprentissages. Ça a été constaté que ce n'était pas du tout le cas. Ce n'est pas vrai. Les élèves n'apprennent pas mieux parce qu'ils sont dans un collège dit d'accueil plus favorisé. On continue à faire un gros soutien aux familles qui continuent à revendiquer un quartier, un collège, c'est-à-dire à refuser que leurs enfants passent leur temps dans le bus, etc., matin et soir, coupés de leur quartier, des possibilités post-scolaires qu'il peut y avoir sur le quartier, etc., parce qu'ils sont coincés toute la journée dans leur établissement d'accueil. Et donc, une des luttes, c'est aussi de se battre à leur côté lorsqu'ils demandent des dérogations pour être au plus près du quartier. Également, il y a un accompagnement des familles lorsque les enfants qui sont scolarisés dans les établissements favorisés rencontrent des difficultés. Et là, des difficultés, il y en a un paquet. Hein. Et puis, dernière chose, quand même, ce qu'on a appris quand même dans cette lutte, c'est ensemble à déconstruire cette idée de mixité sociale. qui était présentée comme la panacée pour résoudre les problèmes d'un quartier dit ghettoisé. Et surtout ce que ça recouvrait. Ce que ça recouvre encore en ce moment, puisque de toute façon, c'est un projet qui est initié, qui a été initié par le conseil départemental, mais qui est de plus en plus considéré comme reproductible dans d'autres villes. Ça a commencé en Bretagne, dans certains quartiers, où on reproduit exactement les mêmes étapes. Discrédit d'un quartier, démolition, dispersion, y compris au niveau des élèves, et des habitants aussi. Alors, en parallèle à cette lutte sur le collège, les habitants continuent de s'opposer aux démolitions d'immeubles et au relogement proposé par les bailleurs sociaux, qui exercent une grosse pression sur les dernières personnes qui refusent de partir. En 2022, quand même, ça j'en dis deux mots, un collectif d'architectes en défense du patrimoine architectural de l'équipe Candilis contacte l'Assemblée des habitants. Et là, se crée un comité très large, d'un seul coup qui s'élargit avec les architectes, les membres de l'Assemblée, parents, enseignants, habitants. Mais se greffe là-dessus plein d'autres assos, le CNL, le DAL, des étudiants en architecture, de l'ESAV, etc. Et sur l'idée d'une réhabilitation sans démolition. Ça part du principe de l'analyse des architectes qui dit que ces démolitions, bien sûr, sont une aberration économique, sociale, écologique, architecturale. À chaque fois, c'est décliné. Là aussi, depuis 2022, donc, il y a eu toute une série de luttes qui se sont menées et d'initiatives avec l'idée donc, de s'opposer à ces démolitions, mais aussi dans le respect des... en travaillant avec les habitants dans le respect, contre le mépris, ces mots sont importants, refuser ce mépris, le dénoncer, et puis surtout la demande de respect et d'être écouté. Ça s'est traduit, par une journée universitaire architecturale à l'école d'archi en avril 2023, cette année. Ça s'est traduit par un court-métrage qui est encore en cours, diffusé en ce moment par un très beau court-métrage, très court, mais très bien, qui s'appelle « Prochaine station Rennerie », qui montre un aspect des luttes des habitants contre les démolitions. Après, il y a des tas de choses un peu plus classiques, manifestations, lettres ouvertes, une chaîne YouTube avec les témoignages des habitants. Et puis, dernièrement, quand même, de la part de cet aspect architecte, sur la base de ces architectes militants, un appel national vient d'être lancé, là, très récemment, contre la politique destructrice de l'ANRU. L'ANRU, l'Agence nationale pour l'innovation urbaine, là, lancée au niveau national, avec une rencontre nationale qui est proposée à Paris en février 2024. Je ne sais pas si je vais dans les temps. En résumé, moi, je voudrais quand même dire que tout ce qui s'est passé sur la destruction de ces deux collèges et puis ce qui arrive, les démolitions des immeubles du Mirail, en fait, je reprends là les mots d'une personne de l'Assemblée et je trouve que ça illustre bien. C'est vraiment le passage d'utopie, d'une utopie architecturale, d'un architecte, Candilis, une utopie pédagogique avec ses réseaux prioritaires. On essaye de... Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ils ont besoin de plus de moyens, etc. Et ça, c'était tout ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. C'est des utopies. Ont été balayées au fil des ans. Et il reste quoi? Un projet de dispersion. Puisque voilà, on ne sait pas quoi faire de ces populations, on les disperse et surtout on les invisibilise. Ça, c'est des choses qu'on ressent très fort sur le quartier et voilà, au niveau de l'Assemblée. Et une dispersion de ces populations qui sont entre-temps non plus des habitants d'un quartier, mais qui sont devenues des populations dangereuses. Ça, c'est pas moi qui utilise ces mots, hein, population dangereuse pour la République. Le conseil départemental n'hésite pas, on pourra en dire. Parce que dans ce projet, cette dispersion, cette invisibilisation résume pour moi l'idée de la mixité sociale. Et c'est vraiment teinté du début jusqu'à encore aujourd'hui par un mépris de classe et un racisme qu'on retrouve à tous les étages. Voilà. En termes de temps, je m'arrête là.
Bon, je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais... Un peu ? Pascal, il a bien fait tout le déroulé de ce qui s'est passé autour de la fermeture de ces collèges, les enjeux, les, le rôle de chacun là-dedans. Moi, je vais juste compléter un petit peu par des réflexions puis des souvenirs qui remontent quand il raconte. Je me rappelle qu'à la première AG de Sud Éducation, quand on a appris le projet de fermeture, une des premières réflexions qu'on s'est faites, c'est que la mixité, si elle n'existe pas au Mirail, elle n'existe pas non plus en centre-ville. Et qu'en fait, le premier communiqué qu'on a sorti, du coup, c'était « il faut de la mixité ?» Question. Fermont-Ferma. Ferma étant le collège de centre-ville. Il n'y a pas de mixité non plus en ville. Et ce qu'on a travaillé aussi, c'est pourquoi c'est toujours au même de faire des efforts, d'aller vers les autres. Et là, ça me renvoie à des paroles de maman dans les réunions publiques qui racontent qu'elles, l'effort d'intégration, elles l'ont fait. Elles sont arrivées dans un pays qui n'était pas forcément le leur. Elles ont appris la langue. Elles soignent nos vieux. Elles font le ménage dans nos bureaux. Elles ont raconté tout ça. Et elles ont dit que le fait... Par exemple, il y en a une qui disait, je me rappelle, son petit qui rentrait en sixième et qui, en plus, avait 2 ans d'avance. Je crois qu'il avait 9 ans. Il devait aller au collège de Balma. C'est-à-dire qu'il devait traverser tout Toulouse. Elle a expliqué, mais comment mon petit... Elle met, en faisant ça, vous nous mettez aussi devant une inégalité de sommeil. C'est-à-dire que mon gamin, il va se lever beaucoup plus tôt que les autres, il va faire du temps de trajet. Elle disait, vous nous éloignez aussi de... S'il y a un problème au collège de mon enfant, moi, je vais avoir tout Toulouse à traverser. Là, le collège, il est à côté. Elle a donné plein d'exemples concrets de dans quelle situation ça met aussi concrètement... les familles, et par ricochet, pour montrer aussi comment, bon, Pascal l'a dit, tous les services publics ont été fermés petit à petit, et autour du collège, il y a une vie aussi, ce qu'on oublie, hein, il y a une vie associative, il y a des clubs de sport, il y a un gamin qui sort du collège à 4h30, 5h, il peut aller à l'aide aux devoirs, il peut aller faire une activité sportive, il peut aller à la médiathèque, mais quand il a une heure ou plus de trajet pour rentrer chez lui, ça a mis en péril aussi tout ce tissu associatif, tout ce qui va avec les enfants dans un quartier, en vrai. Si on enlève les enfants, ben, qu'est-ce qui reste dans le quartier dans la journée ou le soir après l'école ? Donc c'est des choses très, très concrètes qui ont impacté le quartier, de fait. Oui, je voulais quand même signaler qu'au fameux collège de Balma, qui est un collège... privilégiés. Les parents d'élèves de Balma, quand ils ont appris qu'il y avait des enfants du Mirail qui allaient venir côtoyer leurs enfants, il y a eu une fuite vers le privé. Voilà. Donc, c'est aussi pour dire que la mixité, elle est pas... il suffit pas de mélanger des enfants pour que dire, ça y est, on a de la mixité, tout va bien. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça touche à tellement de critères sociaux, économiques, voilà. Et je pense que là, si on peut discuter de tout ça, mais derrière ce projet juste de fermeture de collège, il y a plein d'autres choses qui sont sorties et qu'on a beaucoup discuté, travaillé, on a écrit. Sur la table, là-bas, il y a... Bon, à l'époque, on avait fait un petit 4 pages comme ça. Il y en a plus beaucoup, il y en a 2 ou 3, vous pouvez les feuilleter. On a aussi fait un article avec le journal L'Empaillé, qui a fait un article là-dessus. J'ai amené un exemplaire là. Et il y a un autre numéro de L'Empaillé aussi qui parle de la question de l'habitat au Mirail. Voilà. Donc c'est là-bas, c'est à disposition si vous voulez feuilleter. Puis sinon, s'il y a des questions, on est là.
On peut prendre un temps court un peu d'échange avant de faire une pause et avoir le premier plateau. Donc il y a un micro qui va circuler.
Merci, bonjour à tous. Odile Morin, je suis une des élues d'opposition à la ville et à la métropole, issue de la liste Archipel Citoyen. Alors j'ai suivi ce qui s'est passé sur le collège et je ne connais pas super bien la situation, mais j'entends... bien la difficulté de la question de la mixité sociale, parce que la mixité sociale, quand on parle de logement en tout cas, on demande toujours qu'elle se fasse dans les quartiers populaires, mais on ne demande pas qu'elle se fasse dans les quartiers dits riches. Et d'ailleurs, c'est une des critiques que mon groupe porte régulièrement, puisque On n'a pas vu de construction massive de logements sociaux, ni au Carme, ni à la Côte Pavée, et qu'effectivement, on supprime des logements sociaux dans les quartiers populaires. Je voulais intervenir sur ce qui se passe à la Rainerie en matière de logement dans le cadre du PRU, du programme de renouvellement urbain. Alors, je ne le ferai pas au nom du comité, du collectif d'habitants, hein, parce que même si j'ai longtemps habité à côté de la Rainerie, je ne suis pas légitime à le faire. Mais je vais vous donner mon point de vue par rapport à ça, les éléments que j'ai aussi, puisque lors du Conseil de la Métropole qui s'est tenu avant-hier, a été votée une délibération concernant le PRU Rainerie. C'était le résultat, le bilan du commissaire enquêteur par rapport à ce renouvellement urbain. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait... il y a eu un bug dans notre groupe. C'était mon collègue Jamal qui devait intervenir et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc je l'ai fait un peu au débeauté, j'avais quand même lu la délibération. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport du commissaire enquêteur, il a donné un avis favorable, certes, c'est d'ailleurs le problème, hein, c'est que c'est toujours des avis favorables, mais il l'a sorti d'un certain nombre de réserves. Il l'a sorti de cette réserve. Il y en a deux qui sont intéressantes particulièrement. C'est la première réserve qui concerne l'expropriation des bâtiments Gluck et Cambert, ainsi que des espaces verts Petit Dindy et Gluck, où le commissaire enquêteur a demandé que, je vous le dis, hein, sous réserve de sortir de la DUP les bâtiments d'habitation résidence Gluck et Cambert et les espaces verts Gluck et Petit Dindy, qui ne sont pas un obstacle ni absolument nécessaire à la réalisation de l'opération décrite dans le dossier. Et la métropole a répondu favorablement à cette réserve en disant que... qu'effectivement, il ne demanderait pas l'expropriation, mais en disant aussi que, s'agissant du bâtiment Gluck, Toulouse Métropole ne dispose d'aucune compétence lui permettant de s'opposer à l'exécution du permis de démolir qui a été délivré au profit de la SHLM des CV. Alors, c'est vrai que juridiquement, c'est vrai. Politiquement, c'est faux, puisqu'on sait très bien que la métropole finance les bailleurs sociaux et qu'elle a toute l'attitude, effectivement, de dire au chalet, bah, écoutez, maintenant... va peut-être falloir vous calmer et passer à une autre politique. Voilà, donc on en est là. C'est quand même un progrès, mais c'est quand même pas un résultat satisfaisant. Et sur la manière dont sont traités les habitants, et là, je mets mon autre casquette de responsable associative qui défend les droits des personnes handicapées, je peux témoigner un peu de ce que vivent un certain nombre d'habitants. Et je pense à un monsieur âgé qui est en fauteuil roulant électrique, et qui disposait d'un logement T2 de 100 mètres carrés, comprenant une partie de terrasse importante, et à qui on a proposé des logements dans lesquels il ne pouvait pas faire rentrer tout son matériel. Il a besoin d'un tapis de marche, il a plusieurs fauteuils roulants, manuels et électriques, et on lui proposait un logement dans lequel tout ça, ça ne rentrait pas. Donc on ne tenait absolument pas compte de ses besoins, et surtout que ce qui est dit dans les... pactes qui sont passés entre l'ANRU, la métropole, c'est qu'on doit proposer obligatoirement, dans le cadre du relogement à ces personnes, des logements qui correspondent exactement à ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas perdre par rapport à ce qu'ils avaient auparavant, ni en termes de montant de loyer, ni en termes de surface, ni en termes de positionnement. Et lui voulait rester dans le quartier, comme beaucoup, pour des questions de solidarité. Il a subi des pressions énormes, et notamment, il a reçu, il y a quelques jours, un courrier recommandé de la préfecture lui disant qu'il avait refusé plusieurs offres de logement et qu'il était invité à une réunion de médiation à la préfecture, enfin médiation, hein, je ne sais pas s'ils appelleraient ça médiation personnellement, où on lui expliquait que de toute façon, s'il continuait à refuser, il serait exproprié sans relogement. Vous imaginez l'impact que ça a sur une personne fragile. C'est assez dégueulasse. Donc, bien évidemment, je m'en mêle, mais c'est pas, tout le monde n'a pas la possibilité de trouver quelqu'un pour l'appuyer et le supporter. Donc voilà, il y a des combats encore à mener en la matière.
On peut prendre encore une courte intervention, si jamais, mais sinon, on va faire une petite pause avant d'entamer le prochain plateau. Vous avez peut-être envie de réagir à la...
Moi, je veux bien, mais s'il y a des questions, c'est mieux.
Non, c'est juste une remarque. Comme vous êtes un syndicat d'enseignants et d'enseignantes, ça me fait penser à cette idée de mixité sociale. C'est un concept universel qu'on brandit comme une arme en fonction juste de certaines, enfin, en direction juste de certaines populations pour ça me fait penser à la laïcité en milieu scolaire. En fait, c'est un peu pareil. C'est un concept universel qu'on utilise à des fins, qu'on détourne, qu'on utilise à des fins guerrières, juste sur une partie de la population. Voilà, peut-être que vous pouvez compléter.
Peut-être juste pour ajouter aux questions, j'imagine sur la lutte, vous n'étiez pas seul. Est-ce que vous pouvez un peu dire avec qui vous avez un peu mené ces luttes-là et qui était avec vous un peu peut-être rapidement. Hein.
Ouais, très rapidement, on était bien seul. Très seul. Très, très seul. C'est vrai que cette idée mixité sociale, elle a ratissé large. Et à tous les niveaux, c'est pour ça que j'ai cité le Conseil départemental de l'éducation nationale qui regroupait un large spectre, y compris syndical, y compris associatif, de parents. La FCPE, principale quand même fédération de parents d'élèves, était absolument pour la mixité sociale, comme exemple. Les syndicats majoritaires étaient tous pour. Les syndicats représentatifs au niveau de l'éducation nationale ont porté ce projet, par peut-être un... voilà, mais ça, il faut bien avoir conscience. C'était vraiment, c'est une machine de guerre terrible cette histoire de mixité sociale. Je réponds très rapidement.
Attends,
parce
juste,
que...
je veux compléter là-dessus. Moi, je voudrais juste rajouter que, par exemple, on parle de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Ils ont pris position pour ce projet, mais il faut savoir que dans le quartier du Mirail, ils ne sont pas du tout implantés. Oui. Donc, en fait, moi, ce qu'il y a derrière aussi, et c'est pareil pour les syndicats. Les gros syndicats représentatifs, c'est qu'il y a une espèce de bien-pensance, un peu charité chrétienne. Là, on va s'occuper d'eux, on va leur faire du bien, on va essayer de régler leurs problèmes. C'était un discours un peu dégueulasse comme ça, qui plein de bonnes et mauvaises intentions en fait. Et c'est vrai que la résistance, bon, à part celui d'éducation, mais c'est vrai qu'on est un petit syndicat où nous on a tout de suite dit non, c'est pas possible. Mais après, on est assez implanté aussi dans les écoles, les quartiers et collèges du Mirail. Mais sinon, c'est la résistance, elle est venue de l'intérieur, en fait, des parents, des associations du quartier. Mais des alliés autres comme ça, c'était très, très compliqué.
Je réponds sur la mixité sociale qui est quelque chose d'universel. Enfin, nous, tout de suite, on est parti sur l'idée de la mixité sociale, faire sur cette idée. Après, ça fait débat, hein. Mais ça veut dire reconnaître la mixité sociale, c'est aussi reconnaître l'existence de classes sociales. Et nous, on n'est pas pour la mixité, pour la bonne entente des classes sociales. Enfin, il y a aussi cet aspect-là, hein, qu'on peut vraiment garder en tête quand on critique la mixité sociale. Dire que tous les syndicats, les personnels qui étaient affiliés à tous les syndicats, bon, c'était pas forcément sur des bases des représentations racistes, machin, tout, je sais pas, enfin bon, bref, qui existent, hein, dans certains syndicats. Mais il y avait aussi un côté usure des personnels. Moi, je sais que dès le début du projet, il y a eu beaucoup de personnel d'école et même sur le collège, certains. Avait une écoute plutôt favorable à cette mixité sociale, dans le sens le travail sur les lieux réseau d'éducation prioritaire, c'est pas facile, c'est pas tous les jours facile. Enfin, et des gens qui étaient un peu à cheval, qui étaient un peu en difficulté, c'est vraiment un autre métier que dans d'autres collèges. Et il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont accepté cette idée de mixité, de travailleurs qui ont accepté cette idée de mixité sociale en disant « j'en peux plus » sur le quartier. Je reviens sur... les possibilités juridiques de lutte. Hein. Non, les projets, comment on appelle ça, les trucs d'utilité publique, là, les enquêtes d'utilité publique auxquelles on a participé, on s'est investi, hein, on a écrit, etc. C'est pas toujours retoqué. Hein. Le premier, en 2017, c'est pour ça aussi que ça montre un peu les limites, en 2017, il a été retoqué, l'enquête d'utilité publique. En particulier, il y avait des mots très clairs sur la disparition du collège est une catastrophe pour la vie du quartier, etc. Bon, je vous invite à lire voilà, celle de 2017. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la foulée, nouvelle enquête d'utilité publique qui, d'un seul coup, alors évidemment, à force, ça passe, quoi. Hein, y compris la dernière. Pour dire que c'est toujours aux familles des quartiers, on demande de faire l'effort, ben oui, bien sûr. Mais la réponse, elle est toute trouvée. Hein. On nous l'a dit en direct. Alors, je ne sais plus si c'était l'éducation nationale ou le conseil départemental, mais à très haut niveau. Hein. Des gens à qui on posait la question, mais pourquoi, et les habitants qui étaient avec nous, qui demandaient, mais pourquoi c'est toujours à nous de nous déplacer, la réponse, elle était très simple. Jamais les familles favorisées n'accepteront de venir, dans le quartier de la Reinerie, et si jamais on leur impose, ça sera le privé. C'était très clair. Eux, ils peuvent, et même ils terminaient. Le cynisme jusqu'à terminer clairement, les yeux dans les yeux, mais c'est pas la seule parole terrible qu'on a entendue pendant 10 ans, c'est de dire « eux, ils peuvent, vous ne pouvez pas ». Point de suspension. C'est quand même des baffes terribles qu'on s'est pris et que les familles se sont pris. Et c'était très clairement exposé sur l'idée que c'était aux populations des quartiers populaires de se déplacer pour assumer cette mixité sociale. Je crois que...
Sur la laïcité, peut-être, vite fait, je pense que c'est clair que la laïcité telle qu'elle est présentée et valorisée dans le système éducatif aujourd'hui, elle stigmatise une partie des élèves très, très ciblés. Ce sont les filles musulmanes. Ça, c'est tout. En fait, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe, enfin, tous les discours au niveau du quartier du Mirail. Hein, tout ça, c'est un paquet bien ficelé.
Merci beaucoup. Une petite